En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec David Buron entouré de toute l'équipe, Henrik Morera et Amandine Lemaire pour les dossiers et les archives sonores de l'émission. C'est Gauthier Ourcade qui réalise aujourd'hui l'heure du crime et à côté de lui, en face de moi, avec son casque sur la tête, avec la pointe à l'intérieur peut-être, c'est Philippe Duval qui assure la technique de l'émission. Près de moi, vous venez d'entendre son rire, il est proverbial, c'est celui d'Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacques, bonjour à tous. Et je le rappelle, pour réagir ou poser vos questions, vous pouvez bien sûr nous joindre pendant l'émission sur le 3210. Vous pouvez également donner votre avis ou apporter un témoignage à la page de l'émission sur rtl.fr. Et puis si vous avez connaissance d'une affaire que vous souhaitez entendre présentée prochainement dans l'émission, rendez-vous toujours sur rtl.fr à la page de l'heure du crime pour cliquer tout en haut à droite sur soumettez une affaire à l'émission, tout comme notre invité hier, Justine.
Voilà, et n'oubliez pas surtout de nous donner les raisons de votre choix. Expliquez-nous pourquoi les affaires que vous aimeriez entendre à l'antenne de l'heure du crime vous ont particulièrement frappé, ça nous intéresse toujours. Et puis voilà, et puis on peut se parler, ça nous permet aussi, comme je disais, de mettre un visage sur ceux qui nous écoutent tous les jours.
Parce qu'ils viennent là aussi.
Certains d'entre eux viennent, attention.
Ah oui, hein,
bon, voilà.
S'ils peuvent.
Viennent quand ils ont quelque chose à dire, c'est pour ça que je leur dis, eh bien, n'hésitez pas. Quand vous êtes sur RTL.fr, dites-nous bien pourquoi les affaires que vous réclamez vous ont frappé. Aujourd'hui, nous allons parler des neufs de Tarna qu'on a rappelé très rapidement il y a quelques minutes avant le flash que ce nom de Tarna, qui est celui d'un petit village de Corrèze où avait lieu une opération terroriste assez spectaculaire il y a quelques années après des sabotages sur des voies de chemin de fer. On va vous revenir sur ce dossier à l'occasion de la publication du livre de notre confrère David Dufresne, qui est l'un des invités de cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Et merci donc d'avoir accepté cette invitation. Votre livre, Tarnac, magasin général, paraît aujourd'hui même aux éditions Kalman-Lévy. Et on était en train de se dire, David Dufresne, hors micro, que ceux qui vont se jeter sur le livre pour savoir alors qui a fait le coup, est-ce que Julien Coupin est bien coupable ou non de ce dont on l'accuse, et ce sont des accusations très graves, on y revient dans un instant, vont être déçus parce que ce n'est pas le type d'enquête que vous avez effectué sur cette affaire.
Ah non, absolument pas. Et puis d'abord, c'est surtout pas mon travail. Moi, je ne suis pas auxiliaire de justice. C'est à la justice de faire son travail. Il semblerait qu'elle ait du mal à le faire, bien qu'elle ait des moyens considérables. Mais en 3 ans et demi, effectivement, on n'a pas trouvé pour l'instant de preuves matérielles, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, mais je crois qu'il n'y en a pas. Et pour trouver le coupable. Et en réalité, si je puis me permettre, je ne pense pas que beaucoup de gens se précipitent pour savoir qui, il y a 4 ans, a posé des fers à béton.
Non, moi, je vais vous dire, on va se plonger dans le livre pour savoir est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose derrière ou pas,
voilà.
Ou est-ce que ça a été un fantasme sécuritaire, et où est-ce qu'on a accusé à tort, finalement, des jeunes gens dont le seul tort aurait été, effectivement, de ne pas aimer le capitalisme et d'avoir un certain nombre de points de vue radicaux, mais sans passer spécialement à l'action violente. C'est ça la question.
C'est une des questions. Voilà.
Et pour ça, pour répondre, vous avez rencontré, parce que je parlais de ténébreuses affaires, c'est une affaire dans laquelle les services secrets ont certainement eu à voir, la DCRI qui comprend les anciens de la DST et les anciens des renseignements généraux, ainsi que les policiers spécialisés dans l'antiterrorisme, sont allés sur le terrain. Vous en avez rencontré un certain nombre qui ont accepté de vous parler.
Voilà, avec le temps, certains enquêteurs qui ont travaillé sur l'enquête ou qui travaillent encore, des responsables des services, des gens des cabinets ministériels, au fond, pour aller très vite, parce qu'on va faire le résumé de l'affaire, mais on avait gros sur la patate. Et vous les parlez. Alors parfois parce qu'ils sont convaincus du travail qu'ils ont fait, et bien souvent parce qu'ils ne le sont pas. Et c'est évidemment là que ça devient intéressant.
Et on va revenir évidemment très longuement sur leur confidence. Je voudrais saluer Joseph Bréham, maître Joseph Bréham, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des avocats du groupe des neufs de Tarnac. Une seule question avant un résumé de l'affaire pour que tout le monde sache vraiment de quoi on parle. Personne ne pense que c'est une affaire légère, hein, c'est une affaire grave. Que risquent vos clients au jour d'aujourd'hui ?
Alors, À titre personnel, je défends deux personnes qui, elles, risquent 5 ou 7 ans de détention. Mais la personne qui est accusée le plus lourdement risque 20 ans de détention pour direction d'un groupement terroriste. Donc on n'est vraiment pas dans l'affaire légère, c'est le moins qu'on puisse dire. Et juste une micro-correction, depuis 2010, ils ne sont plus 9, mais 10 mis en cause de Tarnac. Donc il faudrait parler des 10 de Tarnac.
Des 10 de Tarnac, maintenant. Voilà. Alors, je vais vous raconter l'histoire des 9 de Tarnac. C'était avant l'inculpation de la 10e personne. On va se rafraîchir ensemble la mémoire sur ce qui s'est passé en 2008. Nous sommes le 11 novembre 2008. Ce jour-là, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, félicite officiellement l'ensemble des forces de police qui viennent d'arrêter les membres d'un groupuscule appartenant à l'ultra-gauche, proche, selon des sources policières, de ce qu'on appelle la mouvance anarcho-autonome. Et sur RTL, l'annonce de ces interpellations est commentée par Jean-Alphonse Richard.
Personnes cueillies chez elle dès 6h ce matin, ce sont les policiers de la sous-direction antiterroriste, la SDAT, qui ont mené ces opérations qui se sont déroulées sans difficulté en région parisienne et dans l'est de la France. Les personnes interpellées sont toutes connues pour leur lien avec l'ultra-gauche. Quelques-unes sont considérées comme appartenant à la mouvance autonome, avaient déjà été impliquées dans des actions violentes. Certaines auraient leurs entrées chez les cheminots et à la SNCF. 8 personnes depuis longtemps repérées par les hommes de la direction centrale du renseignement intérieur. Il va falloir maintenant pour les policiers vérifier les emplois du temps, exploiter le résultat des perquisitions dont certaines sont toujours en cours, comparer le résultat des traces ADN, notamment des empreintes papillaires retrouvées sur les fameuses tiges de fer accrochées au caténaire par les saboteurs et destinées à stopper les TGV en matériel usiné de façon précise par des inconnus connaissant parfaitement le fonctionnement des lignes à grande vitesse. Nous sommes en matière terroriste, les gardes à vue sont donc programmés pour 96 heures jusqu'à samedi.
Les 9 personnes interpellées, 6 hommes et 3 femmes, sont rapidement présentées à Paris au juge antiterroriste Thierry Fragnoli. Elles sont placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête, donc sur le sabotage d'une ligne TGV près de Duisy en Seine-et-Marne. Dans la nuit du 7 au 8 novembre, des membres de ce groupe auraient placé un fer à béton sur un caténaire à l'aplomb de la voie ferrée, provoquant une panne du premier TGV de la journée vers 5h du matin. Ces gens ont voulu s'attaquer à la SNCF, indique la ministre, parce que c'est un symbole de l'État. Cette même nuit, on découvrira 3 autres actes de malveillance destinés également à désorganiser le trafic des TGV. Et effectivement, plusieurs milliers de voyageurs seront bloqués ce jour-là pendant de longues heures à la suite de ces sabotages. Quelques jours plus tard, la moitié du groupe est placée en détention provisoire. Les 4 autres personnes sont remises en liberté sous contrôle judiciaire. Début décembre, 3 d'entre eux sont finalement libérés. Il ne reste plus alors en détention que Julien Coupin et sa compagne Hildune Lévy. Julien Coupin est présenté comme étant l'inspirateur du groupe, voire l'organisateur du sabotage. Sur RTL, Julien Dumont esquisse un premier portrait du jeune homme, inconnu du grand public. C'était dans le journal de Christophe Ondelat le 15 novembre 2008.
Considéré par la justice comme le dirigeant d'une structure à vocation terroriste, cette cellule invisible qu'il aurait créée puis animée à partir de 2002, Julien Coupa, 34 ans, milieu social particulièrement aisé, mère ancienne directrice des relations internationales d'un grand laboratoire pharmaceutique, père médecin à la retraite, enfance passée dans une splendide demeure du très chic parc de Malmaison dans les Hauts-de-Seine, un parcours qui a soudainement pris un virage à 180 degrés, comme croit le savoir le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin.
C'est un garçon qui a changé radicalement d'orientation scolaire et universitaire, passant d'une école prestigieuse de commerce à la sociologie politique, et qui peu à peu s'est ancré dans une contestation au départ politique et philosophique du monde dans lequel il vivait, et qui peu à peu s'est mis en rupture de la société et s'est ancré dans une action violente et dans la conception de cette cellule invisible qui dit bien en fait l'objectif qui était recherché.
La veille des interpellations, les sabotages avaient pourtant été revendiqués par un groupe d'écologistes allemands qui voulaient s'opposer à la circulation des trains Castor. Les trains Castor, ce sont les trains qui acheminent des déchets nucléaires retraités entre la centrale de La Hague et la ville de Gorleben, leur lieu de stockage en Allemagne. Mais cette revendication ne sera pas prise au sérieux par les enquêteurs. Concernant le groupe de Tarnac, l'enquête semble piétinée. Elle n'arrive pas en tout cas à réunir les preuves matérielles irréfutables pour étayer les accusations contre les inculpés. L'affaire provoque des polémiques, des prises de position politiques qui mettent en cause la qualification même d'acte de terrorisme. Le maintien en détention provisoire de deux jeunes gens aux idées certes radicales, voire anarchistes, mais très éloignées du profil habituel des terroristes, fait également des remous. Et oui, c'est que Julien Coupa intrigue. Trop philosophe, trop érudit, trop intelligent, trop secret. Il se revendique contestataire, comme de nombreux intellectuels. Est-ce que cela suffit pour l'accuser de terrorisme? Le père de Julien Coupa dénonce pour sa part un procès politique au micro RTL de Jean-Alphonse Richard.
Ces jeunes, ils veulent vivre autrement, mais c'est leur seule faute, c'est ça. Ils n'ont pas de sang sur les mains, ils n'ont rien. Ça fait 15 jours qu'ils sont en prison. On a fait une connerie avec Outrou, hein. On a mis en tonne, on a jeté l'opprobre sur des gens pauvres et humbles. Et ben maintenant, on refait la même connerie et on entraîne des drames, on remet en prison des jeunes gens uniquement parce qu'ils veulent vivre différemment et qu'ils sont militants politiques. En fait, c'est un procès politique qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a plein de gens avant qui ont fait des choses beaucoup plus gênantes que ça. Et ben non, eux, parce qu'ils essaient de réfléchir, parce qu'ils essaient d'avoir une vie différente, eh bien, on les met en tôle. Pour un démocrate et un républicain comme moi, je suis vraiment désolé de voir ce truc-là. C'est vraiment dégueulasse.
Alors, que s'est-il vraiment passé à Tarnac? Que venait y faire ce que l'on désigne comme un dangereux groupe terroriste? Tarnac, c'est un petit bourg du plateau de Millevaches, en Corrèze, qui compte à peu près 350 habitants. Et c'est là que Julien Coupa, Gabriel, sa compagne de l'époque et une dizaine de leurs amis, avaient acheté quelques années auparavant la ferme du Goutaillou, ainsi que quelques terres. Ils avaient aidé financièrement par leurs parents. En quelques mois, ils avaient remis en état les bâtiments agricoles laissés à l'abandon et ils avaient défriché les 4 hectares de champs aux alentours, encombrés de vieilles pierres et de vieilles souches. Ils voulaient y faire pousser du seigle. On voulait créer un lieu de vie collectif avec une base agricole, un lieu d'accueil et d'ouverture, expliquait Benjamin Roscou, un des candidats à l'aventure communautaire qui sera lui aussi arrêté d'ailleurs le 11 novembre. Mais cette vision idyllique d'une petite communauté alternative et travailleuse n'est pas du tout celle de la police. En fait, depuis le mois d'avril 2008, la ferme est régulièrement surveillée par les hommes de la DCRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui regroupe désormais la DST et les ex-renseignements généraux. Les policiers ont recueilli des informations de plusieurs sources qui leur font suspecter la petite communauté d'être en réalité une couverture pour un foyer de radicalité politique pure et dure. Un rapport de police laisse même entendre, je le cite, qu'il existerait sur le territoire national une structure clandestine anarcho-autonome entretenant des relations conspiratives avec l'étranger et projetant de commettre des actions violentes dans le but de trouver gravement l'ordre public. Ce petit coin de Corrèze constituerait donc une base arrière, une planque, un relais de la dite structure clandestine. Pourtant, la structure clandestine fait sans cesse l'objet de plus d'attention de la part des hommes de l'antiterrorisme soutenus par les allégations d'un mystérieux témoin, le témoin 42, sur lequel nous reviendrons. Et à l'été 2008, deux caméras sont très discrètement installées dans les arbres autour de la ferme. Les téléobjectifs permettent d'observer ce qui s'y passe de très près. Aucun habitant du Goutaillou n'y échappe. Leurs allées et venues sont scrupuleusement notées et les rapports sont très régulièrement analysés par une cellule du ministère de l'Intérieur. Le 11 novembre 2008, la police lance son coup de filet et perquisitionne la ferme. Les indices matériels de la participation du groupe au sabotage du TGV dans la nuit du 7 au 8 novembre sont faibles, même si certaines découvertes peuvent quand même apparaître troublantes. Les enquêteurs auraient trouvé en particulier deux gilets pare-balles, une photo d'un fer à béton glissé dans un livre en allemand, ainsi qu'une liste étrange dans un carnet appartenant à Julien Coupa, liste sur laquelle on peut lire tube, ficelle, gants, frontal, acétone. Est-ce une liste en vue de préparer un sabotage ou tout simplement une liste d'achat pour bricoler? Autre élément qui nourrit les suspicions policières, dans l'ordinateur de Hildune Lévy, saisi lors d'une perquisition, les experts de la police scientifique vont finir par faire parler le disque dur et ils vont y trouver la trace d'un manuel de fabrication de bombes artisanales. Pour les policiers, cela démontre l'implication de la jeune femme et de son compagnon dans une association de malfaiteurs. Malgré tout, rien n'a permis d'établir un lien direct avec le sabotage pour lequel les neuf de Tarnac ont été arrêtés et mis en examen. Pas de preuves incontestables, pas d'ADN, pas de crochets métalliques comme ceux retrouvés sur les caténaires, pas d'armes ni d'explosifs. Rien qui aurait permis de confondre les auteurs d'un sabotage.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors, en fait, cette affaire des 9 de Tarnac, et maintenant donc des 10 de Tarnac, on l'a appris grâce à l'un de nos invités, Maître Joseph Bréham, il y a un petit instant. Cette affaire, elle éclate publiquement donc en novembre 2008, mais quand on lit votre livre, David Dufresne, on s'aperçoit, et vous avez tenu beaucoup à consacrer un certain temps dans votre livre, un certain nombre de pages, à parler du contexte, on s'aperçoit qu'en fait, déjà depuis longtemps, d'abord ces gens sont dans le collimateur de certains services,
hein,
notamment les services qui ont payé pour ça aussi, et à travers également un livre qui en fait a eu un succès, dans les coulisses qu'on ne soupçonnait pas. Ce livre s'intitule « L'insurrection qui vient » et on soupçonne Julien Coupa, les policiers soupçonnent Julien Coupa d'être celui qui a écrit ce livre. Qu'est-ce qu'il a de tellement sulfureux pour avoir alerté comme ça tous les services antiterroristes ?
Eh ben là, il faudrait poser la question aux policiers. Il se trouve que donc, ce livre est effectivement attribué notamment à Julien Coupa, qui n'a jamais reconnu en être l'auteur. C'est un livre collectif qui est signé d'un collectif anonyme qui s'appelle le Comité Invisible. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que tous les sons que nous avons entendus de Julien Dumont, de Jean-Alphonse Richard et surtout du procureur Jean-Claude Marin parlent de la cellule invisible. Or, entre un comité invisible qui écrit un livre et une cellule invisible, on est tout de suite dans une désignation, dans un mot, on parle tout de suite de terrorisme. Et c'est important parce que toute cette histoire est une affaire de mots. Donc,
En l'occurrence, les journalistes reprennent les termes employés par les magistrats et les policiers. Hein.
On fera le procès après, si vous voulez, des journalistes, mais c'est peut-être parfois le problème, c'est qu'ils embrayent un peu vite. Problème de mots. Page, je crois, 104 de l'insurrection qui vient, il y a quatre lignes qui expliquent qu'il faut bloquer les flux de la société pour être pour s'opposer. Voilà. Et ce livre-là, les flux ça peut être les trains. Ça peut être les trains. Et donc, la justice va considérer que ce livre, étant tellement sulfureux, il va, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, être versé intégralement dans un dossier d'instruction. C'est-à-dire qu'on a un livre, Liberté d'opinion, etc., qui se retrouve dans un dossier d'instruction en disant, voilà, là nous tenons le mobile. Parce qu'en matière de terrorisme, il y a tout un tas de choses que la justice doit prouver, et notamment chercher le mobile. Et des gens ont considéré qu'il y avait, dans certains passages de ce livre, des mobiles annonciateurs éventuels des faits. Et quelqu'un va jouer un rôle important, c'est Alain Bauer, qui est un expert, un
criminologue
proche de Nicolas Sarkozy, qui est très écouté, et qui va un matin, c'est bien avant l'affaire, découvrir que ce livre, en réalité c'est Amazon qui lui recommande d'acheter ce livre. Il se précipite, il en achète 40.
Parce qu'il a acheté un livre, et alors Amazon dit, ceux qui ont acheté votre livre ont aussi acheté tel truc. Et
voilà.
L'insurrection qui vient.
Et c'est un monsieur qui est très inquiet et qui est très généreux aussi, donc il en achète 40 et il en distribue à 39 journalistes, n'est-ce pas ? Et un exemplaire qu'il donne, il me l'a dit, il n'y a pas de souci avec ça, au directeur de la police nationale, Frédéric Pechenard, toujours en poste à l'heure où nous parlons, également proche de Nicolas Sarkozy, et il lui souligne quelques passages et lui dit vous devriez ou tu devrais t'intéresser à ça. Et là, l'affaire...
Pour vous, c'est le point de départ?
Non, c'est pas le point de départ. Il y a d'autres choses. Ouais. Mais disons que on voit se mettre en place ce qui fait une affaire d'État. C'est-à-dire une porosité entre les politiques, entre la police, entre la justice, entre des conseillers occultes, etc. C'est ça, une affaire d'État. C'est quand différents corps se retrouvent sur une affaire.
Et ce sont les fils que vous avez voulu démêler, bien sûr, et que vous démêlez d'ailleurs dans votre livre Tarnac, magasin général. On y revient dans un petit instant. À tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors soyons clairs, je ne suis pas là évidemment pour vous dire qui est coupable, qui n'est pas coupable, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ou pas, mais on s'interroge sur un dossier qui dure depuis novembre 2008, avec quand même à la clé des condamnations très très lourdes, potentiellement très très lourdes, que risque à la fois Julien Coupa, maître Joseph Bréham vient de le rappeler au début de l'émission, 20 ans de prison pour alors association de malfaiteurs dans un but terroriste, c'est ça en gros ?
Direction une association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste.
Voilà, et les autres membres du groupe, donc qui sont les 9 autres que Coupa, puisqu'ils sont 10 maintenant, donc à être mis en cause, risquent entre 5 et 7 ans de prison. Donc c'est du lourd, si j'ose dire. Vous n'êtes pas le seul avocat, et j'en profite pour dire que vous représentez dans cette émission aujourd'hui vos confrères, alors maître Thierry Lévy dans le désordre, maître Jérémy Assous et maître William Bourdon, les 3 principaux collègues avec qui vous défendez donc les membres de ce groupe et d'autres de vos confrères en province, en fonction de l'origine régionale, sont également concernés par ce dossier. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider d'abord à réfléchir on cherche évidemment le vrai départ de l'histoire. Tout le monde s'intéresse brutalement à la personnalité de ce garçon, Coupa, de sa compagne, de son ancienne compagne également. Et alors, on va découvrir un certain nombre de choses qui sont donc distillées, que la presse reprend, puisque sont des informations qui circulent. Coupa s'était rendu à Gênes, où se tenait un sommet du G7, où il y avait eu des affrontements importants. Il était au G8 à Évian en juin 2003, au Forum sur l'écologie à San Giorgio en Italie. Il était à Vichy en novembre 2008, où se trouvaient 27 ministres européens, donc pour une conférence sur l'intégration. Il avait défendu le contrat, il s'était opposé au contrat première embauche, au fichier Edwige. Il a milité pour les sans-papiers, et surtout, alors, je voudrais qu'on vienne sur cet épisode-là. Il avait été signalé à la police française par la police américaine, je crois le FBI, parce que avec sa compagne Hildune Lévy, ils avaient passé clandestinement la frontière entre le Canada et les États-Unis quelques mois ou quelques années auparavant.
Donc ça s'est réalisé de tête le 31 janvier 2008.
Oui.
Et avant de venir là-dessus, je voudrais juste préciser un petit élément. Si on reprend la liste des divers événements auxquels ont participé Julien Coupa, Hildune Lévy et les autres, de tête, vous avez cité Vichy, Gênes, oui, Évian. Oui. Je voudrais prendre un exemple pour montrer à quel point ça ne démontre absolument rien. C'est que je suis administrateur d'une association. Et les membres de cette association qui lutte contre diverses inégalités, mais ouais, les membres de cette association étaient présents à chacun de ces événements. Mmh. Je ne pense pas que qui que ce soit ose me qualifier de terroriste. Et donc, ça n'est absolument pas un élément qui permette d'inférer quoi
cas, que
ce soit.
Il est parfaitement légal d'aller assister
à une manifestation.
Une manifestation où le droit d'aller et venir n'est pas contesté, sauf dans certains
D'ailleurs, dans certaines zones. Les policiers que j'ai interrogés, qui suivaient
David Dufresne,
Julien Coupa et les autres sur cette histoire-là, qui sont des policiers antiterroristes, reconnaissent aujourd'hui qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, en disant ça c'est du maintien de l'ordre, c'est pas du terrorisme. Or toute l'affaire elle est là, c'est-à-dire c'est qu'on met des mots, des qualifications sur des actes qui ne portent... Vous
voyez ce que mais le fait qu'ils soient passés clandestinement donc une frontière, donc alors, celle du Canada et des États-Unis, c'est là où le FBI quand même alerte la police française.
Voilà, parce que ce qui se passe, c'est que le passage passe pas très bien, dans le sens où une voiture est arrêtée et il y a beaucoup de sacs à dos. La police canadienne fait une photo de tous ces sacs à dos, du contenu de tous ces sacs à dos, et le FBI soupçonne un temps Julien Coupa-Eldin-Lévy d'avoir participé à plusieurs réunions avec des anarchistes qui eux-mêmes auraient commis un attentat à New York.
Voilà, bon. À la grenade, oui.
Voilà, à la grenade. Et extrêmement rapidement, les policiers américains disent à leurs homologues français, non, laissez tomber, en fait, c'est pas une bonne piste, etc. Ça, c'est le tout début. Or, que va-t-il se passer? Les policiers français vont se dire, ah, la bonne affaire. Et je dis à la bonne affaire parce que là encore, c'est des mots qu'ils emploient. Ils parlent de créneaux, de parts de marché, de l'ultra-gauche comme une menace qui pourrait servir de marketing pour aider les services à rester en place. Parce qu'il y a la guerre des polices dont on parlera tout à l'heure. Donc, ils se disent, eh ben, on a deux individus dont ils ne savent pas grand-chose en réalité. On va les pister, on va les surveiller. Même s'ils n'ont rien fait, même si les premiers doutes tombent d'eux-mêmes par les policiers américains.
Oui, d'accord.
D'où la liste.
Joseph Braham.
Ce qu'il faut rappeler, et je reviendrai ensuite sur la liste, c'est qu'on est à la période de la fusion, justement, de la DST, ou de l'ex-DST et des ex-RG. Et qu'il y a une véritable bagarre de parts de marché, justement, entre les uns et les autres. Classiquement, l'ultra-gauche, c'est les RG. Et donc faire monter l'ultra-gauche, RG qui pardon était minoritaire dans la fusion, et donc faire monter l'ultra-gauche, c'est permettre de justifier l'existence des RG.
D'accord.
Et donc de donner plus de poids aux RG à l'intérieur de la fusion avec la DCRI.
D'accord.
Voilà, je referme cette parenthèse tout de suite. Et mais donc c'est cette fameuse liste, donc le 31 janvier 2008, les douaniers canadiens ou américains, je me souviens plus, prennent en photo le contenu des sacs à dos. Et à l'intérieur de la photo, sur un tract du magasin général de Tarnac, alors ça c'est intéressant parce que quand on voit la photo, il y a vraiment le magasin général de Tarnac écrit en gros.
Voilà, et il y a la fameuse liste que j'ai citée dans le récit tout à l'heure,
donc,
frontale, acétone.
Oui, frontale, de l'acétone, des gants, etc. Bon. Alors, je ne vois pas vraiment en quoi le fait d'avoir une lampe frontale, des gants, de l'acétone serait particulièrement nécessaire pour poser des fers à béton sur un caténaire. Et puis deux, ça voudrait dire qu'ils ont plusieurs mois avant la réalisation du sabotage prévu qu'il est parti avec cette liste. Donc, en même temps, une capacité de prévision très importante et dans le même temps, une espèce de naïveté absolue, c'est qu'il écrit cette liste. Alors, de sa main. Et deux, sur un tract du magasin général de Tarnac. Donc s'il fallait retrouver, il n'y avait pas plus
facile.
C'était
signé. Voilà. Bon. Alors on va faire une pause et on va revenir à vous deux pour d'autres aspects de cette histoire. On ne va pas vous raconter une histoire complète, je vous le dis tout de suite. Mais on va revenir sur les zones d'ombre, sur les points d'interrogation, sur un certain nombre d'événements qui ont été à un moment, évoqués pour confirmer les accusations donc de préparation d'un acte terroriste et qui peut-être, mais en tout cas, mérite d'être discuté, ce que vous faites dans votre livre. À tout de suite.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
L'heure du crime sur RTL.
Alors nous allons revenir sur un autre aspect de ce dossier, cette fois avec Maître Joseph Braham, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est à l'avocat que je demande d'évoquer cette partie de l'histoire. C'est que il y avait dans les rapports des policiers, et c'est ce qui a pu déterminer d'ailleurs la décision de lancer l'opération, appelons-la l'opération Tarnac, c'est que dans la nuit, cette fameuse nuit donc du 7 au 8 novembre, en fait, tous ces gens étaient suivis, étaient photographiés, étaient déjà dans le collimateur des policiers. Or, cette nuit-là, Julien Coupa et sa compagne étaient suivis. Et ils ont fait un certain péril que je vais vous demander de rappeler, parce que c'est vrai que c'était assez troublant quand on a découvert ça. Racontez-moi.
Alors, ce qui se passe, c'est que donc dans la nuit du 7 au 8... Enfin, alors, ils étaient suivis non pas dans la nuit, mais ils étaient suivis depuis le début de la journée et depuis même de nombreuses semaines.
Ouais.
Et donc, dans la nuit du 7 au 8 novembre, effectivement, Julien Coupa et Hildune Lévy, qui en avaient particulièrement marre d'être suivis, parce que visiblement, c'était pas fait avec toute la discrétion auquel on pourrait s'attendre...
Ouais.
Roule de ci, de là dans les campagnes aux alentours de Paris.
Ouais.
Et se retrouve dans une petite ville qui s'appelle le Trilport. Font un arrêt dans cette petite ville. À l'intérieur, je suis désolé de ces détails, mais c'est un petit peu important. À l'intérieur de la. Enfin, ils jettent divers déchets, entre autres.
De nourriture
De nourriture et puis des emballages d'une lampe frontale, justement. Ce qui fait le parallèle avec la liste tout à l'heure, mais bon. Dans une poubelle, avec pardon aussi des horaires de TGV à l'intérieur de la poubelle. Mmh. Il continue, il roule, en tout cas c'est ce que nous explique le PV D104 qui est le PV de filature. Ils roulent et ils finissent par faire ce que la police qualifie de nombreuses manœuvres de contre-filature. Donc ils s'arrêtent, ils attendent que de nombreuses voitures passent, puis ils repartent, etc. etc. Ouais. Et voilà, ça dure quelques heures comme ça. Et ils s'arrêtent sous un pont. Et là, et rien. Là, justement, c'est tout le souci. C'est que ni la police, ni qui que ce soit n'est capable de dire ce qui se passe.
Alors, si, attendez, excusez-moi, je complète là ce que vous dites. Ils mangent. Ils dorment dans la voiture un peu au triport. Mmh. Ils reprennent la route à 3h50 du matin. Et justement, aux petites heures du matin, rappelons que le premier incident sabotage, c'est 5h du matin, je crois, un des premiers TGV. Hein, et ils vont passer, donc, ils vont être là au petit matin, juste avant que n'ait lieu l'incident au bord d'une voie de chemin de fer.
Ils sont, oui, ils dorment jusqu'à 3h du matin près d'un restaurant, le Mouflon d'Or, pour tout dire.
Ouais.
Ils ont froid puisqu'il est 3h50 du matin au milieu de l'hiver dans l'est de la France, donc il fait plutôt froid dans une voiture. Donc ils sont réveillés par le froid, ils décident de rouler et puis l'explication qu'ils donnent c'est qu'ils ont envie de...
Ils ont envie de faire l'amour et ils ont cherché un coin tranquille.
Voilà.
Et ils étaient près d'Uzi, il y avait un petit chemin qui allait près de la voie de chemin de fer.
À chaque fois qu'ils s'arrêtaient, dans les quelques minutes qui suivaient, une ou des voitures que eux qualifieront après coup de suspectes passaient, soit tout feu éteint, soit au ralenti, pour regarder ce qui se passait dans leur voiture. Voilà. Et donc, plusieurs fois, ils font des arrêts, ils repartent, font des arrêts, ils repartent.
Et ultérieurement, des techniciens de l'identification criminelle vont noter qu'il y a eu bien effraction. excusez-moi, non loin de la voie ferrée, et que des policiers ont relevé les traces de passage d'une voiture et des empreintes de pas. Donc de ceux qui auraient été les auteurs du sabotage, puisqu'il y a quand même bien eu un fer à béton mis sur les caténaires qui a provoqué un incident.
Mais ce qui est
très important, tout ça au même endroit. Quoi.
Ils étaient à côté des voies, ça c'est certain, pas très très loin, en tout cas c'est ce que dit la police, puisque eux ne savent pas très précisément où ils étaient par définition, pas très très loin de l'endroit où il y a eu le sabotage. Mais il y avait aussi, selon le PVD 104, entre 20 et 50 policiers autour d'eux, équipés de matériel à intensification lumineuse, et ces policiers qui les surveillaient scrupuleusement, puisque ce sont des très dangereux
terroristes. S'ils avaient tenté un sabotage, ils auraient été arrêtés, quoi. Ils seraient passés à l'action.
Ou au moins, on s'en serait aperçu.
Voilà.
Alors que les policiers ne se sont aperçus de rien, n'ont vu personne. Mmh. Et chose très intéressante, la voie est en surplomb
par rapport à la route. Oui.
Et on voit tout à fait, et lors de la reconstitution, ça a été démontré, si quelqu'un passe à 4h du matin sur la voie, il se détache. Par rapport on peut le voir parfaitement bien.
Alors,
et quand on a une lunette à intensification de lumière, on le voit encore plus. Et là, les policiers n'ont rien vu.
Alors, c'est sur ces constatations-là que les avocats vont décider de faire une sorte de reconstitution sauvage dont on va parler dans un petit instant, puis on reviendra au livre de David Dufresne.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Émission pour faire le point sur le dossier de ce qu'on appelait les 9 de Tarnac, qu'il faut désormais appeler les 10 de Tarnac, donc des jeunes gens ultra-gauche, enfin bon, peu importe le vocabulaire, mais désignés donc comme tels, en tout cas par un certain nombre de services spécialisés qui les accusent d'avoir préparé des actes graves de sabotage et de terrorisme, et l'addition pourrait être très très lourde pour les uns et pour les autres. On en parle à l'occasion de la sortie aujourd'hui même, et merci donc à David Dufresne de nous en avoir réservé vraiment la primeur, du livre Tarnac, magasin général, qui paraît aux éditions Calman-Lévy, et pour faire le point sur l'aspect judiciaire de l'enquête, c'est Maître Joseph Bréham, donc, qui est l'un des avocats du groupe, qui est venu participer à cette émission. David Dufresne, je reviens à vous, là on a longuement parlé de cette épisode qui effectivement, bon, à la fois c'est ça qui peut étonner d'ailleurs ceux qui nous écoutent, c'est que dans cette affaire on passe son temps à être confronté à des événements en se disant ah bah oui mais bon sang, mais c'est bien sûr, ils sont pas si innocents que ça ces gens-là. Et puis finalement quand on creuse un peu ou quand les avocats font ce qu'ils ont fait, dont on peut parler rapidement, c'est-à-dire une reconstitution, ça vole en éclats.
Ça vole en éclats. Et ce qui est curieux, c'est que la police antiterroriste, la police judiciaire, on va dire, c'est grosso modo, dans tous les corps de police, le pôle d'excellence. La police judiciaire en France, elle est reconnue dans le monde entier pour ses qualités. Si on se met du point de vue de la police.
Oui, d'accord, ce qu'on va dire demain au cours d'une émission spéciale au 36 Quai des Orfèvres. Je vous dis ça au passage, c'est là, où nous serons demain.
Oui. Et là, donc, tous les faits que vous venez de relater, on se rend compte qu'ils sont extrêmement mal retranscrits par les policiers qui sont chargés de suivre Julien Coupa et Dune Lévy. Ils se trompent dans les horaires, ils se trompent dans les lieux, etc. etc. Alors, j'ai des policiers qui m'expliquent pourquoi ils se trompent. Ils disent, voilà, le stress, la nuit, on est tout seul dans la voiture, tatati, tatata. Et alors, la police se doit d'être irréprochable. Si elle ne l'est pas, il y a un problème. Et c'est toute l'affaire qui est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, et pour moi, il n'y a pas de hasard, pourquoi elle n'est pas irréprochable? Parce qu'au départ, on essaie de mettre, et pour des raisons politiques, on essaie de faire rentrer dans la boîte à chaussures des chaussures qui ne rentrent pas, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on essaie de créer une menace terroriste là où il y a une forme de radicalité. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on fait le coup de poing avec des CRS à Vichy ou ailleurs dans une manifestation qu'on est terroriste. Ou alors, si on devient terroriste, alors ça devient extrêmement intéressant de discuter quasiment philosophie et morale.
Ouais. Alors, ce que vous avez fait d'ailleurs, avec un certain nombre de vos interlocuteurs, qu'ils soient policiers, magistrats ou proches de ce groupe de Tarnac.
Alors, je m'en voulais pas, mais depuis le début, il y a un petit truc qui me brûle les lèvres.
Alors,
parce que vous dites le groupe de Tarnac.
Oui, bah, je dis groupe de Tarnac, oui. Bon.
Et oui. Et bien, en disant groupe, on est déjà dans une imagerie qui est particulière.
Alors, comment vous les qualifiez, ceux que vous avez rencontrés?
Une bande de copains. Bande voilà. Non, mais vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce que groupe, c'est le langage policier. C'est juste, voilà.
D'accord.
Mais effectivement, j'ai rencontré des membres de cette bande, on va dire.
Oui. Pas mieux, c'est pas
non,
mieux.
Non, c'est pas mieux parce que ça fait bande organisée. Or, voilà. C'est pas non plus ça. Non,
ça
mais
fait braquage, machin, ouais.
Non, c'est pas ça. Et puis, j'ai rencontré des gens de cabinet ministériel, que ce soit le porte-parole du ministère de l'Intérieur de l'époque, que ce soit le directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie, et on n'a pas le temps, mais c'est extrêmement intéressant de discuter dans la longueur avec lui, de revenir heure par heure, qu'est-ce qui se passe entre le 7 novembre 2008, les dégradations de SNCF, et le 11 novembre, les arrestations. On se rend compte que le téléphone sonne de toutes parts, entre l'Élysée, Beauvau, la SDAT, la DCRI, le renseignement, la police judiciaire, etc. On est bien dans une affaire politique.
Oui. Parmi vos interlocuteurs, j'allais dire, parmi ceux qui ont accepté de vous parler, que ce soit donc du côté des autorités, on va dire, est-ce qu'ils regrettent un peu? Ils se disent, finalement, on est allé mettre nos pieds. Comment on va se sortir de cette histoire? Ou est-ce qu'il y a des gens qui, sincèrement, considèrent que, malgré tous les arguments que vous pouvez leur opposer, il y a vraiment quelque chose de concret derrière et qu'il y avait un groupe dangereux?
Je pense que le plus important d'entre eux, c'est-à-dire le juge Thierry Fragnoli, est convaincu de certaines choses. Je pense que certains policiers le sont aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, à mon grand étonnement, d'autres policiers qui peuvent être du bureau d'en face ne le sont pas du tout.
Alors, je m'adresse maintenant à Maître Joseph Bréham. Dans une affaire comme celle-là, comment défendre vos clients? Non, mais je veux dire, est-ce que ça passe par la contre-enquête? Oui, non, ça, j'imagine bien. Bon. Mais ça passe par quoi? Ça passe par repointer dans le dossier, disant, attendez, il y a une piste qui n'a pas été explorée, c'est celle-là, on peut en parler, si vous voulez.
Il y a deux lignes de défense. Une première ligne, qui est une ligne que David Dufresne a évoquée, qui est de dire, imaginons même que certains, tous, ou au moins un d'entre eux, ou une d'entre elles, aient commis ces actes, de toute façon, cela ne mériterait absolument pas une qualification terroriste. Pour retraduire ça en français, dire que c'est du terrorisme, ça sous-entend de dire que ces personnes ont voulu terroriser la France entière. Ont voulu commettre des attentats, ont voulu poser des bombes, ont voulu tuer des gens. Je pense pas que poser un caténaire sur... Voilà, enfin, que poser un fer à béton puisse en relever. Ça, c'est première ligne de défense. Mais ce qui a tout de même des conséquences importantes. C'est-à-dire que le fameux témoin anonyme 42, que vous avez cité, qui est un mythomane maintenant, c'est su, ce fameux témoin 42 ne pouvait pas témoigner de façon anonyme. C'est tout de même important. Il ne pouvait pas y avoir de sonorisation si on n'était pas en terrorisme. On ne pouvait pas filer, comme on les a filés pendant des mois et des mois, les membres, les 10 de Tarnac. On ne pouvait pas non plus les filmer, etc. etc. Ça a quand même
on
des grosses implications.
Parce qu'il y avait
ce qualificatif de terrorisme.
D'accord.
Deuxième conséquence.
Et les gardes à vue qui sont beaucoup plus longues,
tout à fait.
Évidemment.
Le fait qu'ils... Quand bien même aujourd'hui ils étaient, enfin s'ils étaient arrêtés aujourd'hui, ils seraient toujours privés de leur avocat pendant 72 heures, 3 jours en garde à vue. C'est pas une partie de plaisir sans avocat. Bon, détail. Enfin détail. Voilà. Deuxième ligne de défense. La ligne de défense matérielle, matériellement creuser le dossier, qui est une ligne de défense beaucoup plus classique, mais dire attendez messieurs, vous m'indiquez que votre histoire se tient a priori, sauf que quand on creuse, on s'aperçoit que
tout ce qu'ont fait les avocats, c'est-à-dire d'aller du Trilport à Duisy, en prenant un chronomètre et en disant c'est tout à fait possible de partir à 3h50 et d'arriver à 4h, mais là il faut marcher à 139 km/h sur les petites routes de campagne.
Sauf que vous nous dites dans le PV que l'on roule à allure normale. Donc il y a une incohérence.
Est-ce qu'il y a des pistes qui n'ont pas été suivies, notamment des revendications de cette nuit de sabotage?
Il y a des pistes. Il y a eu de nombreuses revendications, en particulier une piste allemande, mais qui a été très rapidement suivie, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle une CRI, une commission rogatoire internationale. L'Allemagne a dû mener ce pas sérieux, et puis on n'est pas allé vraiment plus loin.
Un procès, donc, on ne sait pas, ou l'instruction est toujours en cours.
L'instruction est toujours en cours. Ce qu'on appelle l'article 175, c'est-à-dire la fin de l'instruction, devrait être rendue d'ici quelques mois, je pense, et donc ça sous-entend une fin d'instruction réelle à la fin de l'année 2012, probablement. Bien sûr, je ne suis pas le maître de l'instruction. Et un procès en 2013.
Je vous remercie beaucoup de vos précisions. Et d'ici là, donc, on aura largement le temps de lire le livre qui paraît aujourd'hui de David Dufresne, qui était aussi mon invité. Tarnac, magasin général. Je vous recommande la lecture de ce récit qui paraît chez Kalman Levy, qui est passionnant et qui est très original. Quelquefois, on dit c'est très... Ah oui, c'est très original. Non, c'est très original, mais ça mérite d'être lu d'urgence. Voilà. Merci infiniment.
Merci.
À demain, tous. On va se dire ce qu'on fait demain.
Dans un instant.
Oui, puisque Flavie Flamand va arriver là. Dans une minute, elle est là.
Alors.